Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce dimanche dans À voix haute, j'ai le plaisir de partager avec vous les premières pages du très beau livre de Georges Hiverneau, La peau et les os, paru aux éditions du Scorpion en 1949 et réédité par le Dilettante. Passé composé. Piccolo te reconnaît bien, tu sais, m'a dit tante Julia. Piccolo, c'est le chien, baveux, chassieux, ignoble. Il tremblote sur un coussin. « C'est un amour, » dit la tante, qui se déplace autour de la table dans son épaisse odeur de vaseline. L'oncle me demande si j'ai maigri. On ne manque jamais de me demander si j'ai maigri, c'est réglé. Je réponds « Oui, j'ai perdu 15 kilos. » « Tant que ça, » fait l'oncle. Ce n'est pas comme le fils du boucher, il ne s'est jamais si bien porté que là-bas. « Mais Bourdier, tu te rappelles le gros Bourdier, celui qui est aux assurances sociales. Lui alors, c'est incroyable ce qu'il a décollé, il fait pitié. » Ils me regardent tous comme pour chercher où je peux bien cacher ces 15 kilos qui me manquent. Il y a Mère Landon, il y a Ginette et son fiancé, le vétérinaire, et Pierre. Pierre explique au vétérinaire qu'il prend des petites pilules roses pour son foie, 2 chaque matin. Il ne sait pas ce qu'ils y mettent dans ces pilules, mais elles lui font du bien, on ne peut pas dire. Mère Landon me verse du Bourgogne. Tu n'en buvais pas comme celui-là au camp. Il rigole, je rigole, elle est bien bonne. J'en réservais une bouteille pour ton retour, précise l'oncle en clignant de l'œil. N'est-ce pas, Julia ? Je disais tout le temps, il faut en garder une bouteille pour son retour. On trinque, à la santé du prisonnier, on retrinque. C'est le moment où la famille, gonflée de dinde et de bourgogne, s'étale, se débraille un peu, se sent lourde, assise, massive, éternelle. Ce que tu dois être heureux, me dit Ginette. Je réponds, pour sûr. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Là-bas, on parlait toujours de bonheur, sans y croire. On s'évertuait piteusement à évoquer le bonheur. On disait « Si jamais on en sort, tu te rends compte ?» Ce n'était que des mots, tant de soirs, et pas d'autres à venir que des soirs tout pareils et des mots comme ceux-là, de misérables mots sans force, qui n'accrochaient rien, qui ne ramenaient rien avec eux. Rentrer dans le monde des vivants, dans le monde de tout le monde, ce serait une aventure inouïe. Il n'y avait pas de mots pour cette secousse énorme, cet éclatement de jugement dernier. Et maintenant, me voilà réinstallée dans le bonheur. Le bonheur n'est plus cette informe rêverie désespérée. Il a pris son contour précis, ses dimensions exactes. Le voilà présent, pesant, évident, un bonheur épanoui et gras. Qu'est-ce qu'il me faut de plus ? Me voilà réintroduit dans les dimanches, dans les familles, dans les digestions familiales. La tante penche sur Piccolo une tête plâtrée de tireuse de cartes. Un bonheur qui sent la vaseline et le vieux chien. Vais-je pas me plaindre ? C'est ça le bonheur. Au-dessus de mon oncle, on voit la photographie de mon oncle en héros de 14-18, sa moustache circonflexe et sa croix de guerre, car il est écrit que chacun portera sa croix sur la terre. Le bonheur, c'est la photographie de mon oncle. C'est les cheveux teints de ma tante. C'est la tendre lueur du Bourgogne au fond des verres et cette discrète envie de vomir qui me vient à cause des vins et de la dinde. « On dirait que tu ne te sens pas bien, » s'inquiète Mère Landon. « C'est la chaleur, » explique Louise. « Rien ne se passe jamais comme on croit. Et d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on croit. » Même avec Louise, ça n'a pas été ce que je croyais, ce moment d'une insoutenable perfection. Notre joie s'est bêtement éparpillée. « Attends, disait Louise. Je vais te faire du café, c'est du vrai, tu sais, j'en ai encore. » L'homme du gaz s'est amené pour relever le compteur. Un gaillard sonore et hilare qui nous inondait de cordialité. À l'étage au-dessous, la radio jouait « Till the end of time ». Louise disait « Ne regarde pas mes cheveux, ils sont moches. Je devais justement aller chez le coiffeur. » Puis « Surtout n'oublie pas de téléphoner à Pierre. En voilà un qui va être content, tiens Pierre. » L'homme du gaz, Pierre, le coiffeur, toutes sortes de présences absurdes s'introduisaient entre nous. J'avais attendu, je ne sais pas, une espèce de scène de théâtre probablement. Au théâtre, on dit juste ce qu'il faut dire, on fait juste ce qu'il faut faire. Alors que dans la vie, on parle à côté, on agit tout de travers et il y a toujours des détails qui ne vont pas, des fausses notes. C'est comme ça que nous l'avons raté, la scène du retour. Pas raté exactement, mais elle aurait dû être autrement, être autre chose. Et c'était déjà trop tard. La vie se refaisait, se reformait, la vie petite et soucieuse de toujours. Tout se remettait en place. Je reprenais ma place. J'enfilais ma veste civile, mon vieux pantalon. Ils sont faits à moi. Ils collent bien à tous mes gestes. J'en ai eu du mal avec les mythes, disait Louise. Parce que votre existence a été éventrée, retournée par l'événement, vous imaginez vaguement que vous aviez droit à du neuf, que vous alliez repartir à zéro. Pas du tout. Ça se recolle. Ça se retape, c'est comme avant. On ne part pas, on continue. On recommence, on remet ça. On remet sa vieille veste, on remet sa vieille vie. La vie se remet à couler dans ses vieilles petites rigoles. Comme s'il n'y avait rien eu, on a retrouvé sa place. Ma place de passant parmi les passants. Ma place d'homme dans la rue, d'homme dans le métro. Nous sommes des hommes et des hommes à couler comme ça dans des couloirs, à couler le long des murs, le long des barrières, et tout est tracé d'avance. Les portillons s'ouvrent et se referment, on n'a qu'à se laisser couler. On est des globules de cette espèce de sang qui coule dans le corps des villes. J'ai retrouvé ma place de globule, et quelquefois, ça se coagule, ça forme un petit caillot. Ça se rassemble dans une salle à manger qui sent la vieille femme et le vieux chien. Merlandon me verse du Bourgogne. Ginette fait à son vétérinaire des sourires de magazine. Tante Julia tient tellement à ce que nous déjeunions chez elle dimanche, m'a dit Louise. C'est pour fêter ton retour. D'accord. Nous irons chez tante Julia. Chez tous les oncles, toutes les tantes, tous les cousins, j'en ai des tas. Tout le monde est gentil avec moi, je ne peux pas me plaindre. Ils me demandent si j'ai maigri. Ils me disent « Les prisonniers, ce n'était pas comme les déportés. » Je réponds « Bien sûr, ce n'était pas la même chose. » Mon directeur aussi a été très bien. En voilà un qui les réussit, les scènes d'émotion. Il a une belle tête de barman, grasse, avec un petit nez crochu. Et sa voix est molle, tiède, épaisse. Elle vous enveloppe doucement comme une étoffe de luxe. Ses bajoues, ses rides exprimaient une commisération décente. Il a longuement gardé ma main dans les siennes et il m'a parlé de cette lourde, de cette cruelle épreuve que je venais de traverser. Une épreuve dont vous sortez meilleur et plus fort. C'était exactement le ton qui convenait. Ni trop attendri, ni trop peu. De la cordialité, mais quand même des distances. Des inflexions mesurées, nuancées, précises. Du travail au poil. Et c'était noble avec ça. Familier et noble à la fois. Quand il prononçait « nos chers prisonniers », Je sentais par la vertu de cet adjectif possessif que mes 5 ans de nuit et de boue m'échappaient. Ils ne m'appartenaient plus. 1800 journées qui se fondaient en une fluide richesse nationale, en un capital impondérable géré par des vieillards à voix distinguées. Notre tradition classique, nos cathédrales, nos grands morts, nos blessés, nos mutilés, nos manchots, nos unijambistes, nos chers prisonniers. J'ai essayé de remercier le directeur en beau style, mais je me suis embrouillée dans mes phrases. Dans les bureaux, je n'étais pas traitée d'une façon aussi flatteuse. De ces premiers jours, c'est surtout les bureaux que je me rappelle. Je gravissais des escaliers, j'attendais dans les couloirs avec les autres types. Ça aboutissait à un éclopé de la guerre précédente derrière une table. L'éclopé me renvoyait à d'autres couloirs et à d'autres éclopés. Vous repasserez lundi prochain, je vais vous donner un numéro. Je repassais. Qui est-ce qui vous a envoyé ici ? Gueulait l'éclopé. C'est rue Saint-Jacques qu'il faut aller. C'est rue de Liège. Les types autour de moi rouspétaient. Voilà un mois que ça dure, ils commencent à nous emmerder. Sans conviction d'ailleurs, on sait que ça n'avance à rien de rouspéter. Il nous fallait signer des papiers. Nous avions droit à une liberté bien en règle, avec des tas de cachets, de numéros et d'empreintes digitales. Au bout de 2 heures, une infirmière nous ordonnait de nous déshabiller. Un médecin me considérait, la gueule méfiante et dégoûtée. D'entendre toute la journée des types lui parler de leurs ulcères d'estomac et de leurs dents gâtées, à la fin, ça avait dû le remplir d'idées noires. De sales petites idées comme des punaises. Une gelée noire de petites idées plates et collées les unes aux autres. Le médecin me demandait « Vous toussez ? Il y a longtemps que vous toussez ?» Je répondais gentiment « oui, docteur. » »« Ah ah !» faisait le docteur. Il paraissait fâché. Il se recueillait. Il écoutait bouger les petites idées noires. Il notait quelque chose sur un papier. « Alors vous toussez ?» Bien sûr, je tousse. Puisque je dis que je tousse, c'est que je tousse. On verra ça, disait le docteur. Après, c'était les rues, les magasins, les visages rouillés des passants. Je m'arrêtais, je repartais. Je regardais des cravates derrière une glace, jaune, verte, avec des raies. Je lisais les vieilles affiches ou bien les inscriptions sur les petites plaques de marbre. Mort à 22 ans. Des fleurs séchaient au pied des murs dans des boîtes de conserve. Moi, je suis vivant, c'est une chance. Je m'arrête et je repars. Je passe devant des cafés, j'achète un journal. Il y a des vieilles qui vendent des lacets et des lames de rasoir. C'est quelque chose d'être un homme vivant qui marche comme ça dans la chaleur. Même avec cette déception informulable au fond de lui, ce goût fade de la déception. Je pourrais être comme Vignoche, qui est entré à l'hôpital dès son retour et qui va mourir. Comme Chouvin, que sa femme a plaqué. « Tu comprends ?» lui a-t-elle dit. « Moi, j'ai fait ma vie autrement. » Des types comme Chouvin, il n'en manque pas. Il y en a dont les journaux parlent, parce qu'ils ont donné à leur souffrance l'éclat rapide et dérisoire du crime. Et il y a tous ceux dont on ne dit rien, qui s'arrangent comme ils peuvent de leur peine, qui la racontent aux copains, et les copains se foutent d'eux. Moi, au moins, j'aurais eu un retour sans histoire. Je vais monter l'escalier et Louise sera là qui s'essuiera les mains à son tablier avant d'ouvrir la porte. Elle criera « C'est toi ?» parce qu'elle a peur des voleurs. La nuit, j'étends les mains et Louise est là. J'enferme dans mes mains le visage de Louise, les seins de Louise. C'est vrai que je suis heureux. Mais il est idiot de réfléchir tout le temps à son bonheur, de le scruter, de le flairer, pour savoir s'il est intact et bien mûr. À force de réfléchir, on n'est plus sûr de rien. Et puis, j'ai l'air de réclamer des compensations, de revendiquer mes droits comme un retraité de l'État qui croit qu'on le roule sur le montant de sa pension. Louise a raison quand elle prétend que je complique tout et que je suis trop exigeant. Le mieux serait de se détendre, de s'abandonner un peu.
À voix haute, Meredith Ledez.
J'essaie. Je fais de mon mieux. Je souris à tante Julia. Je souris à Mère Landon. Chère vieille tante, cher vieux Mère Landon avec ses yeux de lapin blanc. La tante pousse vers moi la tarte aux fraises. La spécialité de Ginette, tu m'en diras des nouvelles. On regarde Ginette. Ginette regarde le vétérinaire. Le vétérinaire regarde la tarte et rêve à toutes les tartes qui se préparent pour lui dans les dimanches de l'avenir. Je fais l'éloge de la tarte, je connais les convenances. Pierre déclare que dans les pâtisseries, on n'en trouve pas d'aussi bonnes. On a beau dire. C'est à cause de toutes les saletés qu'ils y mettent, explique la tante. Elle m'exhorte à reprendre de la tarte. J'en reprends, je souris de plus belle. Ils reprennent tous de la tarte, chère vieille tarte. Et ils en viennent à parler du temps de l'occupation. L'oncle raconte que lorsque les Allemands ont fichu le camp, il s'est mis devant sa porte, lui l'oncle, pour les narguer. Il leur adressait des petits signes d'encouragement. « Tu n'aurais pas dû, dit Pierre. Ces cocos-là n'entendaient pas la plaisanterie. Que veux-tu, dit l'oncle. Je suis comme ça. C'est comme moi, dit Mère Landon. Voilà Mère Landon lancée dans ses souvenirs, on ne pourra plus l'arrêter. Et comme toujours, c'est autour de Ruche que s'enroulent les souvenirs de Mère Landon. Depuis que Ruche est mort, Mère Landon et Ruche sont inséparables. Avant la guerre, ils se connaissaient à peine. Ruche vendait de la bonneterie. Il était en instance de divorce, c'est tout ce qu'on pouvait dire de lui. Quand il vous accrochait, vous en aviez pour 2 heures de plaintes inextricables à propos de son avoué et de ses frais de procès. À part de divorcer et de vendre des chaussettes, on ne concevait pas qu'il pût arriver quoi que ce fût à cette créature éplorée. Mais il lui est arrivé d'être torturé et de se taire. Il lui est arrivé d'être fusillé. On n'aurait pas cru, disent les gens. On ne croit jamais qu'un pauvre type puisse comme ça, tout d'un coup, choisir la fierté et le courage. Et maintenant, Mère Landon s'est fait le chroniqueur, le chantre de Ruche. Il s'est associé à ce fantôme. Il s'est doucement glissé dans le destin de Ruche, dans le combat et le silence de Ruche. Il enchevêtre dans des récits ambigus et pathétiques ce que Ruche a fait et ce qu'il a fait lui, Mère Landon, et ce qu'il aurait pu faire. C'est plein de sous-entendus et de subtiles transpositions. On ne s'y reconnaît plus. Pas moyen de savoir ce qui appartient à Mère Landon et ce qui appartient à Ruche. Mère Landon finit par prendre toute la place. Même quand il prononce « Ruche, c'était un dur », en vous fixant de ses petits yeux rouges, on comprend tout de suite que c'est lui qui est un dur. Du granit, Mère Landon, de l'acier. J'écoute, Mère Landon. Je m'occupe à digérer la tarte. On en a bavé, proclame l'oncle. Tous s'échauffent. Ils baignent avec ravissement dans ce mythe exaltant qui est venu colorer leur vie. Cette aventure collective où le réel et l'éventuel sont indiscernables, où se mêlent les parts et les rôles, et où les faibles finissent par bénéficier du courage des autres. Mais moi, je n'étais pas dans le coup. Étrangère à ce drame confus dont déjà on ne peut plus rien connaître, à ce passé tout proche auquel les ruses du langage et les suggestions de la pudeur, de la vanité ou de la peur donnent son visage indéchiffrable. Je me tais, malveillant et irrité. Je me sens oublié comme un mort à son enterrement. Je n'intéresse personne. Personne n'intéresse personne. On fait semblant. Chacun parle de soi. On écoute les autres pour pouvoir leur parler de soi. Mais au fond, on s'en fout. Après que chacun a bien parlé de soi, la famille se rappelle pourtant ma présence. « Vous autres aussi, dans vos camps, vous en baviez, » dit la famille. Forcément, on en bavait. Les têtes se tournent vers moi, c'est mon tour. La famille veut savoir ce que nous mangions, si nos gardiens nous maltraitaient. « Raconte un peu, » demande Louise, le type qui s'est évadé dans une poubelle. « Oh oui, raconte !» implore la famille. Je me fais l'effet d'être encore le petit garçon à qui on imposait de réciter au dessert la mendiante d'Eugène Manuel. Je me résigne. Eh bien voilà, c'est un type qui... Mes souvenirs, dans ces moments où je suis bien encastrée dans la paix compacte de la famille, c'est curieux comme ils perdent de leur mordant et de leur autorité. Ils sont sans force. Ils n'ont même plus l'air vrai. Pas moyen de croire à ça quand on regarde Ginette servir le café en prenant soin de ne pas tacher la nappe. Quand on regarde Merlandon, le vétérinaire, l'oncle. Existences indiscutables et invincibles comme celles des choses. Comme celle du petit berger de bronze sur son apeuron de dentelle. La même dignité, la même puissance sourde. Cette solidité repousse et nie les souvenirs. Au contact de la réalité des dimanches familiaux, l'humiliation et le désespoir ne font plus qu'un jeu d'ombres improbables, une espèce de cinéma absurde. J'en suis sortie à présent, et une fois dehors, ça ne colle plus au reste, ça ne se raccorde plus. C'est quand je suis seule, dans la foule, dans le métro, que les souvenirs reprennent leur consistance. J'étais bien tranquille, bien vide, comme tout le monde. Et tout à coup, il y a cette haleine contre mon visage. Je reconnais l'odeur de cuir et de drap de troupe. J'ai à nouveau la main grasse sur ma chair. Je redeviens cet homme nu, ses vêtements à ses pieds, un homme qui a froid, qui a honte de son ventre gonflé et de ses jambes misérables. Ou bien c'est le sous-officier allemand qui surgit. Le vieux sous-officier avec sa veste courte, ses grosses fesses. Il se tient au bord du trottoir, un bâton à la main, planté dans ses bottes énormes. Et quand nous passons devant lui, il tape dans le tas. C'est comme ça qu'il me tombe dessus les souvenirs, qu'il m'attaque soudain et pèse sur moi de leur poids atroce. Ça ne dure pas. Quelqu'un demande « Vous descendez à la prochaine ?» Les gens me bousculent, me délivrent. Voilà, c'est un type qui... Mon petit récit a du succès. Tout à fait la sorte de récit qui convient aux familles. Coloré, drôle et crâne en même temps. Moitié courteline et moitié déroulède. La famille s'amuse et admire. Encouragée, je passe à l'aventure de Piquet. Nous l'appelions la mode Piquet. Quand il a démonté le compteur électrique. On s'esclaffe. Il n'y a que Pierre qui reste froid parce qu'il n'a pas bien saisi. Il faut tout recommencer pour lui, mais après, il rit plus fort que les autres. Ce doit être mauvais pour son foie de rire si fort. Et ainsi, à mesure que j'en parle, mes 50 mois de captivité se transforment en une bonne blague de chambrée, en une partie de cache-cache avec nos gardiens. Voilà ce que j'aurais rapporté de mon voyage. Une demi-douzaine d'anecdotes qui feront rigoler la famille à la fin des repas de famille. Mes vrais souvenirs, pas question de les sortir. D'abord, ils manquent de noblesse. Ils sont même plutôt répugnants. Ils sentent l'urine et la merde. Ça lui paraîtrait de mauvais ton à la famille. Ce ne sont pas des choses à montrer. On les garde au fond de soi, bien serrées, bien verrouillées, des images pour soi tout seul, comme des photos obscènes cachées dans un portefeuille sous les factures et les cartes d'identité. Et puis, les gens sont devenus difficiles sur la souffrance des autres. Pour qu'ils la comprennent, et encore, il faut qu'elle saigne et crie à leur tordre les tripes. Nous n'avons à offrir, nous autres, qu'une médiocre souffrance croupissante et avachie. Pas dramatique, pas... héroïque du tout. Une souffrance dont on ne peut pas être fier. Quelques coups de pied au cul, quelques coups de crosse, au bout du compte, n'est pas grand-chose. L'expérience de l'humiliation n'est pas grand-chose. Sauf pour celui qui est dedans, bien entendu. Celui-là ne s'en débarrassera plus. Quand une fois une certaine confiance qu'on avait en soi et en l'homme a été ruinée, il n'y a pas de remède. Le sous-officier qui tapait sur nous en Belgique n'avait pas une gueule tordue de bourreau. C'était un homme placide qui trouvait que nous ne marchions pas assez vite, alors il tapait. Et peut-être pensait-il à autre chose, à un jardin, à un soir de son enfance. Peut-être ne pensait-il à rien. Est-ce qu'il nous voyait seulement? Il tapait comme ça, au petit bonheur, sans colère. Il eût été en colère, on admettrait. Sans plaisir non plus. Ça ne paraissait vraiment pas l'amuser. Il devait manquer d'imagination. Il tapait avec une grande indifférence, comme on tape sur des bêtes pour les faire avancer. Et c'était là le pire, cette indifférence de vacher. Être insulté et haï en homme, ça va encore, mais ne plus compter du tout. En passant devant lui, nous nous mettions à courir malgré une fatigue sans nom. Pas par peur, non. C'était bien au-dessous de la peur. C'était la résignation affolée des bêtes, l'affreuse innocence des bêtes. Si je racontais cela à Merlandon ou à Pierre, il dirait « Ces salauds-là, quand même, on n'a pas idée. » Sans comprendre qu'un homme qui a, une seule fois, couru sous les coups, ne sera plus jamais semblable aux autres, ni semblable à ce qu'il était avant. Louise non plus ne comprendrait pas. Elle m'interroge sur mes colis, sur mon linge. « Tu raccommodais toi-même tes chaussettes, mon pauvre chéri, ça devait être du joli. » Elle rit. Elle ne peut pas savoir. Je ne lui dirai pas le sous-officier. Je ne lui dirai pas cette fois où ils m'ont fait sortir des rangs et déshabiller au bord de la route. Et le gros type passait ses mains sur mes cuisses, entre mes fesses. Furieux celui-là. Il criait sans arrêt des injures. Je revois cette large bouche ébréchée qui s'ouvrait et se refermait. Ce n'est rien si l'on veut. Il faut mettre du silence sur tout ça. Mettre des souvenirs faux sur les vrais jusqu'à ce que les vrais en crèvent. Nous racontons de bonnes histoires. On a bien rigolé des fois, vous savez. Certains choisissent le ton avantageux. Ils s'établissent dans le personnage du prisonnier résolu, roidi, sévère, inflexible. Cela fera une captivité en chromo. Comme l'autre guerre, celle de 14, est devenue une guerre en chromo, avec son poilu cynique, râleur et bon enfant. Mais les vrais souvenirs vivent par en dessous. Ils s'obstinent. Les souvenirs d'impuissance et de dégoût. Nous avons touché le fond. Nous nous sommes vus jusqu'au fond. Nous avons vu les autres jusqu'au fond. Ce n'est pas facile à oublier. C'était « La peau et les os », un très grand livre de Georges Hiverneau, paru aux éditions du Scorpion en 1949 et réédité par le Dilettante. Cette émission était comme toujours réalisée par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical « Nuages » de Django Reinhardt, une composition de 1940. Quant à moi, je vous souhaite un beau dimanche soir et je vous dis au week-end prochain pour de nouvelles lectures à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.